France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Emmanuel Morse-Duncan, Emmanuel Rose, Valentin Bobinet et Olivier Déhaye. Voici la quatrième de nos cinq émissions consacrées à Richard Strauss et à son œuvre orchestrale, avec aujourd'hui la suite d'une symphonie alpestre, le final de la symphonie domestique et des œuvres moins connues comme Schlagobers, Crème fouettée ou encore La légende de Joseph. Mais commençons par une auto-célébration de notre héros de la semaine, Ein Heldenleben, une vie de héros, poème symphonique que Strauss compose en 1898, autoportrait héroïque en six parties, le héros, les adversaires du héros, la compagne du héros, le champ de bataille du héros, l'œuvre de paix du héros, et enfin, comme nous allons l'entendre avec l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam dirigé par Bernard Haitink, Des Helden Weltflucht und Vollendung, c'est-à-dire le retrait du monde du héros et son accomplissement. C'est le violon solo de Herman Krebers que nous entendions au milieu de ses collègues de l'Orchestre Royal du Concertgebouw Amsterdam dirigé par Bernard Haitink dans les dernières notes de ce poème symphonique de Richard Strauss, l'opus 40, Ein Heldenleben, une vie de héros, c'était retrait du monde du héros et son accomplissement, autoportrait musical de Richard Strauss écrit en 1888. Richard Strauss, nous l'évoquons cette semaine à travers ses partitions symphoniques. Je vous rappelle que dimanche prochain, le jour des 70 ans de la mort de Strauss, l'ami Christian Merlin, dans son émission Au cœur de l'orchestre à 9h du matin, reviendra sur l'orchestre au cœur des opéras de Richard Strauss. Il sera question notamment de son librettiste Hugo von Hofmannsthal. Et bien justement, ce grand homme de lettres va travailler avec Richard Strauss sur sa première partition chorégraphique. Nous sommes là en 1914 et les ballets russes de Diaghilev proposent à l'Opéra de Paris un ballet intitulé La légende de Joseph. C'est l'opus 63 de Richard Strauss, d'après un argument biblique et extrait de l'Ancien Testament. Nous sommes là à la cour du roi Potiphar, dont la femme sensuelle et même lubrique veut séduire le jeune prisonnier hébreu Joseph. Elle tente de le séduire, de l'embrasser. Il fait tout pour la repousser, alors elle le fait torturer. Mais un ange venu du ciel va sauver Joseph. Voilà grossièrement résumé la trame de cet argument de Hugo von Hofmannsthal et du comte Harry Kessler pour un spectacle qui devait être chorégraphié par Nijinsky. Finalement, c'est Michel Fokine qui va faire la chorégraphie sur des décors des Léon Bakst. Bref, toute la splendeur des ballets russes juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Nous allons entendre la toute fin de cette légende de Joseph avec la Staatskapelle de Dresde dirigée par Giuseppe Sinopoli. Tour à tour, Potiphar apparaît avec des porte-flambeaux et des hommes d'armes. Les acolytes du bourreau arrivent du palais amenant un récipient rempli de braise rouge. La femme de Potiphar s'étrangle avec son collier de perles tandis qu'apparaît un archange entièrement vêtu d'or et les chaînes de Joseph tombent tandis que le cortège formé autour du cadavre de la femme de Potiphar se met en branle. Joseph et l'archange sortent à l'air libre. Mai 1914, quelques semaines avant l'entrée en guerre des Français contre les Allemands, un compositeur allemand Richard Strauss proposait au public parisien cette œuvre chorégraphique, La Légende de Joseph, dont nous écoutions le final avec la Staatskapelle de Dresde dirigée par Giuseppe Sinopoli. C'était la première partition chorégraphique de Strauss. La suivante sera plus légère, légère comme de la crème fouettée, puisque c'est le titre de ce Schlagobers que nous écouterons à la fin de cette émission.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Mais pour l'heure, nous allons reprendre notre randonnée orchestrale en écoutant la suite d'une symphonie alpestre, Eine Alpensymphonie, opus 64. Nous étions arrivés au sommet de la montagne avec une scène de vision métaphysique inspirée de Nietzsche. Et peu à peu, le brouillard va se lever et la descente de la montagne sera mouvementée avec tour à tour le soleil qui s'obscurcit peu à peu, une élégie, un calme avant la tempête, puis l'orage et la tempête.
Thank you.
Gewitter und Sturm, orage et tempête, écrit Richard Strauss sur sa partition, qui est clairement descriptive avec ses gouttes de pluie qui tombent et ses coups de timbales. Abstieg, rajoute-t-il, descente, c'est la descente de la montagne dans cette partie d'une symphonie alpestre ici jouée par la Staatskapelle de Dresde et dirigée par Rudolf Kempe. Et demain, nous écouterons la suite et la fin de cette merveilleuse partition de 1915, une symphonie alpestre avec coucher de soleil, épilogue et enfin la nuit. France Musique, 14h05. En 1902, Richard Strauss compose la partition que nous allons entendre maintenant, qui est la symphonie domestique. En tout cas, c'est le final de cette nouvelle partition, de ce nouveau poème symphonique que nous allons écouter. Lui qui s'était représenté dans une vie de héros, eh bien, il représente sa famille. Pauline de Hanna, c'est sa femme qui s'appelait ainsi à sa naissance, née comme lui en Bavière. Pauline a un an et demi de plus que Richard. Elle est chanteuse, soprano, et elle interprète le rôle d'Elisabeth dans le Tannhäuser de Richard Wagner lorsqu'elle épouse Richard Strauss en 1894. Et la voix de Pauline va inspirer à Richard plusieurs leaders, plusieurs pages d'opéra. Un personnage haut en couleur, au fort caractère que cette Pauline, et face à un autre personnage haut en couleur comme celui de Strauss, eh bien cela fera de nombreuses étincelles auxquelles assistera leur fils Franz, né en 1897 et prénommé Franz comme son grand-père Corniss que nous avions évoqué au début de la semaine, Franz Strauss. Donc en 1902, Franz Strauss, le fils, a donc 5 ans et son père Richard évoque l'atmosphère, l'ambiance familiale avec ses joies et ses disputes dans cette Sinfonia Domestica dont voici le final avec un orchestre dirigé par Christian Hiervi, c'est l'orchestre symphonique de la radio de Leipzig.
Thank you.
Applaudissements et clameurs pour l'Orchestre Symphonique de la Radio de Leipzig, dirigé par Christian Niervi, dans la Symphonie Domestique, Sinfonia Domestica de Richard Strauss, l'opus 53 du compositeur, dont nous écoutions le final.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Une symphonie domestique dans laquelle Richard Strauss va puiser à deux reprises pour écrire d'autres œuvres. D'abord un prélude nuptial et puis surtout une partition concertante qu'il va écrire pour le pianiste viennois Paul Wittgenstein. Paul Wittgenstein, c'était le frère aîné du grand philosophe Ludwig Wittgenstein. Paul Wittgenstein avait été appelé comme bien de ses compatriotes à la guerre en 1914 et il sera gravement blessé au point que les médecins ont dû lui amputer une partie du bras droit. Donc voilà un pianiste à qui il ne restait plus que la main gauche, et la suite appartient à l'histoire de la musique, puisque pour étendre son répertoire, Paul Wittgenstein va commander des œuvres pour la main gauche à différents compositeurs comme Hindemith, Britten, Korngold, Prokofiev et bien sûr Maurice Ravel qui va écrire le plus grand chef-d'œuvre de la série. Mais il y eut aussi Richard Strauss, auteur d'une étonnante partition au titre grec Parergon, cela signifie œuvre secondaire. Alors, j'imagine pas dans l'esprit de Strauss qu'il signifiait secondaire dans sa qualité musicale, mais dans le fait qu'elle utilise un matériau thématique déjà entendu dans la Sinfonia Domestica. Voici donc ce Parergon de Richard Strauss par le pianiste Roland Pöntinen avec l'orchestre de la Tonhalle de Zurich, dirigé par David Zinman.
Thank you.
Sur France Musique, vous venez d'entendre Parergon de Richard Strauss sur des motifs de la Sinfonia Domestica avec la main gauche du pianiste Roland Pöntinen et l'orchestre de la Tonhalle de Zurich dirigé par David Zinman. Des références que vous pouvez retrouver bien sûr en consultant notre site.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Richard Strauss, je vous le disais tout à l'heure, avait présenté sa première partition chorégraphique en mai 1914 à Paris pour les ballets russes de Diaghilev avec la légende de Joseph. Et bien, 10 ans plus tard, en 1924, il présentait son second ballet, mais dans un monde qui a été bouleversé par la Grande Guerre, bien sûr. Le titre de cette partition, c'est Schlagobers, donc crème fouettée, un ballet gastronomique que Strauss avait écrit bien auparavant, dans les années 1911-1912, mais qu'il ressort des tiroirs en 1924 pour les célébrer de ses 60 ans, puisque Strauss est né en 1864, un ballet qui met en scène des bonbons, des pralines et autres feuilles de thé, donc une œuvre a priori légère et sympathique dans l'esprit de Casse-Noisette, mais une œuvre qui a été assez mal reçue à l'époque, lors de la création à l'Opéra National de Vienne, une grande partie de la population viennoise souffrant encore en 1924 d'approvisionnement alimentaire, et seuls quelques privilégiés pouvaient s'offrir des confiseries et, c'est le cas de le dire, des viennoiseries qui était alors hors de prix. D'où le surnom que la Vox Populi a donné à ce ballet crème fouettée, le ballet des millionnaires. Seulement, Richard Strauss avait une certaine tendresse pour cette partition, dont il fera une suite orchestrale en 1932. En voici un extrait par l'Orchestre Symphonique de Détroit, dirigé par Neme Järvi. C'est la danse finale sur un rythme de tarentelle.
Thank you.
Allgemeine Tanz, danse générale, voilà le titre du final de cette suite symphonique Schlagobers Crème fouettée, d'après le ballet que Richard Strauss avait composé en 1911-1912. C'était l'orchestre symphonique de Détroit dirigé par Neeme Järvi que nous entendions dans cette partition chorégraphique. Et c'est bientôt la fin de cette émission et c'est encore sur un pas de danse que nous allons rendre hommage à Richard Strauss avec la suite de danse qu'il écrit pour orchestre d'après des pièces de clavecin de François Couperin. Richard Strauss s'était intéressé à plusieurs reprises au grand siècle français, le siècle du jeune Louis XIV, à travers plusieurs partitions comme Le Bourgeois Gentilhomme, d'après Molière, sur un travail qu'il a réalisé avec Hugo von Hofmannsthal autour de l'opéra Ariane à Naxos. Et en 1923, Strauss écrit donc ce qu'on appelle parfois la suite Couperin, dans laquelle il utilise Sarabande, Gavotte et autres allemandes du grand Couperin. Nous allons entendre l'une de ses partitions qui s'intitule en allemand Wirbeltanz, ça signifie tourbillon. Mais Richard Strauss, qui connaissait le français, s'est peut-être trompé en s'inspirant d'une partition de Couperin qui s'intitule plutôt Le Turbulent que Le Tourbillon. D'ailleurs, il y a trois œuvres de Couperin que nous allons entendre citées dans cet extrait. Le Turbulent, Les Petits Moulins à Vent et Tricoteuse. Voici un extrait de cette suite de danse d'après Couperin de Richard Strauss par l'Orchestre de Chambre d'Europe dirigé par Erich Leinsdorf. C'est hyper ravissant, cette Wirbeltanz, tourbillon ou turbulence si l'on préfère, suite de danse d'après François Couperin de Richard Strauss par l'Orchestre de Chambre d'Europe, dirigé par Erich Leinsdorf. Et le voici maintenant coiffé de sa perruque grand siècle, c'est Lionel Esparza. Bonjour Lionel.
C'est bien. Vous comment est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement bien, puisqu'on n'est pas dans le même studio, mais on est juste à côté l'un de l'autre.
Ah, on n'est pas loin. Donc demain, on va revenir à Richard Strauss, si j'imagine,
oui,
pour la dernière fois.
Oui, avec trois grandes parties. Une partie valse autour de Chevalier de la Rose et de Munich, la fin de la symphonie alpestre, c'est la fin donc de cette randonnée, et puis les œuvres du crépuscule, je dirais, avec Métamorphose, et puis des concertos, beaucoup de concertos, concerto pour corps numéro 2, concerto pour hautbois, et un savoureux duetto concertino pour clarinette et basson. Voilà le programme pour demain, mon cher Lionel.
Eh bien, ce sera parfait, on sera à l'écoute. Merci François-Xavier, et à demain donc.
À réécouter sur francemusique.fr.